Bonjour mon ami, je suis ravi que vous m'ayez rejoint. Nous commencerons quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas si nous terminerons, mais nous allons entrer dans le vif du sujet pour étudier ce que j'appelle le mariage idéal. Il n'y a pas de mariage parfait, mais nous avons certains principes pour un mariage idéal que nous trouvons dans Genèse chapitre 24. Donc, si vous avez une Bible, prenez-la et nous plongerons dans la parole ensemble et vous allez adorer. Bonjour, je suis Bill Esconley. Dieu vous voit, il vous aime et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Ma femme et moi sommes mariés depuis plus de 41 ans. Et je peux honnêtement vous dire qu'après 41 ans de mariage, nous avons un mariage réussi. Cela n'a pas toujours été facile. Lorsque deux personnes qui ont une forte personnalité et des opinions divergentes se rencontrent, il va y avoir des conflits et nous avons bravé ces choses. Et vous pourriez dire, « Eh bien, avez-vous déjà pensé au divorce ?» Non. Est-ce que Janet l'a fait ? Non. Elle a probablement envisagé le meurtre quelquefois, mais jamais le divorce. Mais la vérité, c'est que notre mariage est réussi. Et il a été dit qu'un bon mariage, un mariage réussi, un mariage solide, est la chose la plus proche du paradis sur Terre. Et qu'être dans un mauvais mariage est la chose la plus proche de l'enfer sur Terre. Eh bien, il y a peut-être une part de vérité dans tout ça. Je ne suis pas sûr. Mais je sais que si vous avez un bon mariage, il peut s'améliorer. Si vous avez un mauvais mariage, Dieu peut le ressusciter et changer les choses. Nous voyons cela de temps en temps dans l'Église ici. Des couples qui sont à couteau tiré, séparés, ou près du désastre. Et nous avons vu Dieu intervenir et transformer leur mariage. Alors que vous me regardez en ce moment, écoutez, que vous soyez heureux en mariage, que vous soyez malheureux en mariage, que vous soyez divorcé ou veuf, que vous soyez séparé ou célibataire, et même si vous ne voulez jamais vous marier, vous êtes heureux d'être célibataire, c'est bien. Certaines personnes ont ce don. Que vous soyez célibataire et que vous souhaitiez vous marier, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, il y a un point dans ce message pour vous. Je vous le dis, si vous prêtez attention, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Je crois que vous recevrez de Dieu quelque chose qui vous aidera dans votre vie. J'ai intitulé ce message « Le mariage idéal ». Il n'y a pas de mariage parfait. Mais alors que je lisais le livre de Genèse, j'ai été marqué par le mariage d'Isaac et Rebecca. Isaac était le fils d'Abraham. C'était un mariage plus ou moins arrangé, mais il y a des principes que nous pouvons tirer de cela. Vous savez quoi? Si nous voulons avoir un mariage idéal, ces principes doivent être présents. Et j'en ai sélectionné six qui découlent de cette petite histoire de Genèse 24. Et enfin, que vous puissiez les retenir facilement. Je les ai transformés en un acrostiche. Nous utiliserons le mot anglais « spouse », qui signifie « épouse », ok? Donc, six lettres, S-P-O-U-S-E. Six principes que nous trouvons dans cette histoire. Le premier vient de la lettre S. Same faith. Et signifie « même foi » en français. Si vous voulez avoir un mariage idéal, vous devez épouser quelqu'un qui a une même foi que vous. Quand Abraham chargea son plus ancien serviteur d'aller chercher une femme pour son fils, Isaac, voici ce qu'Abraham dit à son serviteur quand il l'envoya pour trouver une femme pour Isaac. Dans Genèse chapitre 24, des versets 3 à 4, il a dit « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Abraham ne voulait pas qu'Isaac se marie à l'une des filles païennes qui vivaient dans la région où il séjournait. Il ne voulait pas qu'il se marie avec une idolâtre. Il ne voulait pas qu'il épouse une femme qui n'avait pas la foi en Dieu. Et c'est intéressant parce que si vous regardez dans Genèse chapitre 20, vous voyez qu'Abraham, bien qu'ayant quitté Ur, des Chaldéens, parce que Dieu lui avait dit de partir, et il séjournait dans le pays, et Dieu a dit, ce pays dans lequel tu séjournes sera possédé par ta semence, ta postérité. Pourtant, Abraham, comme nous le voyons encore une fois dans la Genèse chapitre 20, avait gardé le contact avec sa famille et avec le peuple d'où il venait. Pour cette raison, il était au courant des mariages et autres choses qui se passaient dans la famille, chez les siens, et vous pouvez lire cela dans les Écritures. Donc, je ne doute pas un instant que sa famille, que son peuple avait une idée du vrai Dieu vivant qu'Abraham connaissait, aimait et servait. Donc, c'était la meilleure option de l'époque qu'avait Abraham pour trouver une personne avec une foi similaire à la sienne pour épouser son fils. Le Nouveau Testament dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?» Ou « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» La justice fait référence ici aux chrétiens et l'iniquité à l'incroyant. Le chrétien est la lumière et l'incroyant l'obscurité. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de relation plus intime dans la vie que le mariage. Et mon ami, le mariage est l'union la plus élevée entre deux êtres humains. Les Écritures disent que « Je suis un être spirituel créé à l'image de Dieu. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps physique. Je suis un esprit, c'est mon cœur, c'est le noyau de mon être. Dieu est un esprit, nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une âme, c'est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et nous vivons dans ces maisons que nous appelons des corps. » Le mariage est la plus haute forme d'accord entre deux personnes. Et pour avoir un mariage réussi, il doit y avoir un accord dans les trois dimensions. La plus importante étant la dimension spirituelle, la deuxième, l'âme, et la troisième, la dimension physique. Dans ce monde, les gens ont tendance à donner la première place au physique tout en ignorant les deux autres. Mon ami, c'est une grave erreur. Il est bel et bien important qu'il y ait un accord au niveau physique. Il n'est pas bien d'épouser une personne dont on ne supporte pas l'apparence. Cependant, on ne doit pas épouser quelqu'un uniquement pour son apparence, car l'apparence s'estompe. Que feriez-vous si une collègue de votre mari se présente? Elle est plus jeune que vous, plus belle en plus de cela, et elle commence à faire des avances à votre mari. Et tout ça n'est que physique, ce sera une grande tentation. De même, que feriez-vous si un beau gars au travail ou un de vos voisins, qui est beaucoup plus jeune que vous, commence à dire des choses gentilles à votre femme, alors que pour vous, c'est le physique qui compte le plus dans votre relation? Non, il faut que ce soit plus que ça. Il doit certes y avoir un accord à ce niveau. Comme je l'ai dit, c'est le moins important, c'est l'échelon le plus bas, mais c'est quand même important. Ma femme et moi, comme je l'ai dit, nous sommes mariés depuis 41 ans. Je n'ai plus tout à fait l'apparence que j'avais quand nous nous sommes mariés il y a 41 ans. Ma femme non plus, elle est toujours aussi attirante à mes yeux. Mais en vérité, nous approchons tous les deux nos 70 ans. Mais je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, « Bébé, tu as ma parole, que tant que je serai vivant, tant que je serai ton mari, je ne deviendrai jamais gros. Je ferai de mon mieux pour prendre soin de ce corps que Dieu m'a confié. » Et elle m'a fait la même promesse. Alors, l'âge a certainement eu un effet sur nous deux, en 41 ans. En vérité, l'homme intérieur est renouvelé jour après jour, mais l'homme extérieur périt. Nous voyons certains signes de l'âge, mais nous avons tous les deux fait de notre mieux pour prendre soin de nous, pour rester en bonne santé. Et donc, je reste actif physiquement. Je fais de l'exercice. Ma femme reste très active physiquement. Et nous avons fait cette promesse l'un à l'autre concernant le domaine physique. Passons à autre chose, même si c'est important, c'est le moins important. Nous passons au domaine de l'âme. Oui, c'est important, mais pas aussi important que le spirituel. C'est plus important que le physique. Le domaine de l'âme, la volonté, l'intellect, les émotions. Écoutez, si vous êtes le genre de personne qui aime penser profondément aux choses, vous aimez avoir des discussions et des débats sur la politique, les événements mondiaux, et le pourquoi de certaines choses, vous êtes une personne studieuse. Et peut-être que vous voulez découvrir l'origine de certains mots. Vous voulez apprendre une autre langue. Vous êtes un perpétuel étudiant et vous aimez parler de ces choses. Mais vous avez choisi un partenaire qui n'aime que parler de la mode, des styles les plus récents, des rencontres amoureuses à Hollywood, des sujets variés qui manquent de profondeur. Vous allez avoir des problèmes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accords dans ce domaine de l'âme. Il doit y avoir un accord. Vous devez être capable de parler des mêmes choses et valoriser les mêmes choses. Ma femme et moi, nous avons ça. Nous sommes certainement très différents. Mais nous parlons de toutes sortes de choses. Et j'aime parler à ma femme. Nous avons un accord dans ce domaine de l'âme. Nous avons les mêmes valeurs. Et comme je l'ai dit, il y a des choses dont nous pouvons discuter et parler. Et ce n'est pas comme si elle était à 100 km de moi émotionnellement, mentalement et intellectuellement. Non, nous avons un accord dans ce domaine. Et je pourrais en dire plus. Mais si vous avez un peu de bon sens, vous saurez de quoi je parle. Il y a des gens avec qui il est impossible d'avoir une conversation intelligente. Ils ne veulent que s'asseoir et regarder des dessins animés et autre chose du même genre. Et il n'y a juste pas d'accord à ce niveau. Donc, c'est important. Pour un mariage idéal, c'est important qu'il y ait accord dans le domaine de l'âme, domaine physique, domaine de l'âme, et puis le plus important, le domaine spirituel. Vous devez aimer le même Sauveur. Vous devez tous les deux être amoureux de Jésus. À titre de rappel, les Écritures disent de ne pas avoir des relations intimes avec les non-croyants. La chose la plus importante dans la vie d'un chrétien est sa relation avec Christ. Pour un vrai disciple de Jésus, il n'y a rien de plus important que sa relation avec Christ. C'est la chose la plus importante de sa vie, et c'est d'elle que découle tout le reste. C'est à partir d'elle que nous interprétons toute autre chose, notre relation avec Dieu, notre croyance que la parole de Dieu, la Bible, est la parole de Dieu, et que c'est Dieu qui nous parle. Et je suis marié à une personne avec qui je ne peux pas partager cela. La chose la plus importante à mon cœur, cette chose dont dépend toute ma vie, cette chose par laquelle j'interprète autre chose, ce sont les lentilles par lesquelles je regarde toute chose. Et si je ne peux pas partager ça avec mon conjoint ou ma conjointe, nous ne serons pas en accord par rapport à une grande partie de ma vie. Donc, pour un mariage réussi, il faut un accord physique, l'accord intellectuel, émotionnel, dans le domaine de l'âme, et enfin l'accord spirituel. Si vous êtes déjà marié et que votre conjoint n'est pas un croyant, peut-être que vous vous êtes converti à Christ après vous être marié. Très bien, faites de votre mieux. Partagez votre expérience avec votre partenaire. Dites-lui ce que Christ a fait pour vous. Et ensuite, faites de votre mieux pour vivre une vie transformée à ses yeux. Peut-être que votre conjoint verra la lumière et se repentira de ses péchés pour mettre sa confiance en Jésus. Peut-être que vous étiez croyant et que vous avez épousé un incroyant. Vous avez enfreint le principe biblique. OK, vous êtes marié. Vous ne pouvez pas divorcer. Vous ne pouvez pas mettre fin à la relation. Encore une fois, vous devez faire confiance à Dieu pour qu'il vous donne la sagesse tous les jours pour vivre une vie chrétienne exemplaire aux yeux de votre conjoint incroyant. Mais quand nous regardons ce que nous appelons un mariage réussi, nous voyons qu'Abraham a dit « Écoute, je ne veux pas qu'Isaac, mon fils, se marie avec l'une des filles païennes de Canaan. Il dit à son serviteur, « Va dans le pays de ma famille et trouve une femme pour lui dans ma famille, chez mon peuple. Et nous devons épouser des gens ayant une même foi précieuse. » La deuxième lettre de notre acrostiche est P, pour prière. Le choix d'un ou d'une partenaire de mariage ne devrait être fait qu'après une prière sincère. Vous devez vraiment prier et chercher Dieu à ce sujet. Passez donc du temps avec Dieu en priant. Il n'y a rien de plus important. Et vous découvrirez dans l'histoire de Genèse 24 que nous sommes inspirés par le serviteur d'Abraham. Lorsqu'il arrive près du puits, avant que Rebecca ne vienne, le Seigneur prie ainsi, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham !» Et il fait cette brève et intense prière. Et Dieu exauce sa prière. On se rend donc compte qu'après avoir accepté Jésus, la décision la plus importante que vous aurez à prendre est celle du choix d'un ou d'une partenaire de mariage. La décision la plus importante que j'ai jamais prise dans ma vie, après ma décision de suivre Jésus, a été le choix de mon épouse, de celle qui allait être ma partenaire de vie. Et écoutez, je vous le dis, j'ai beaucoup prié. Et vous devez aussi beaucoup prier. Et ne vous mariez pas sur un coup de tête. Ne vous mariez pas parce que vos amis vous disent de vous marier. Vous devez prier sérieusement à ce sujet. Je veux au moins aborder un autre sujet que nous trouvons dans cette histoire. C'est la lettre O pour le mot anglais « others ». En français « autre », le serviteur d'Abraham arrive au puits. Il prie et Rebecca s'approche du puits. Et voici ce qui s'est passé. C'est Genèse, chapitre 24, versets 17 à 20. Il est dit, « Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle veut achever de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Rebecca était courtoise, elle était assidue, et elle n'était pas égocentrique. Elle pensait aux autres. Elle lui offrit à boire, elle donna de l'eau au serviteur d'Abraham, et elle dit, « Laisse-moi abreuver tes chameaux. » Ce gars avait 10 chameaux assoiffés, et elle est retournée et a commencé à remplir sa cruche. Ce n'était pas si facile que ça. Elle n'a pas fait ça en 5 minutes. Elle ne l'a pas fait en 10 minutes. Elle n'a pas accompli cet exploit en une demi-heure. Elle a abreuvé tous ses chameaux. Encore une fois, elle a été courtoise envers cet homme. Voici, elle aurait pu se dire, pourquoi devrais-je prendre soin de lui ou de ses chameaux? Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. J'ai des choses à faire, j'ai un emploi du temps, je suis occupé. Mais non, elle a pensé aux autres. Écoutez-moi. Les gens paresseux font de mauvais partenaires de mariage. Les égocentriques font de mauvais partenaires de mariage. Mais les gens travailleurs et les gens qui pensent aux autres et servent les autres font d'excellents partenaires de mariage. J'ai été pasteur pendant de nombreuses années. J'ai été pasteur pendant à peu près 50 ans. L'église Cottonwood aura bientôt 40 ans. Il y a quelques années, j'étais un pasteur assistant. Dans une autre église, j'avais déjà servi Dieu avant cela. Et tout au long de ces décennies, j'ai conseillé un très grand nombre de couples qui avaient des problèmes. Et dans la plupart des cas, lorsqu'un couple venait à moi avec un problème, cela était presque toujours dû à l'égoïsme. Une personne qui ne pense qu'à elle-même. Il fait toujours ça, et je n'ai pas ce dont j'ai besoin, ceci, cela, ou elle fait ça, et elle ne pense pas à moi. Et c'est de l'égoïsme de la part des deux, ou plus de la part de l'un d'entre eux. Et si je peux amener les couples à parler, à se faire face, et à se parler, et à écouter l'autre, et si je peux, j'amène les deux à faire de leur mieux pour se servir mutuellement. Je ne peux pas vous dire combien de mariages nous avons vu se transformer. L'égoïsme provoque un désastre dans un mariage. L'égocentrisme provoque un désastre dans un mariage. Et j'ai vu beaucoup de mariages être sauvés et devenir saints. Et j'ai aussi vu beaucoup de mariages s'effondrer et échouer. Les Écritures disent, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et si vous semez l'amour et vous encouragez et faites de votre mieux possible pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, mon ami, vous le récolterez. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Cela me rappelle une femme. Elle m'avait écrit une lettre. Son mariage s'écroulait pour la troisième fois. Et elle regardait une des émissions où j'enseignais sur Luc, chapitre 6, verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Eh bien, si vous considérez le contexte, il ne s'agit pas vraiment d'argent. La plupart du temps, ce verset est connecté à l'argent. Et honnêtement, je crois que c'est plausible. Je ne critique donc pas cette approche. Mais le contexte dans lequel Jésus prononçait ces paroles était la manifestation du pardon, de la miséricorde et de l'amour. Si nous donnons le pardon et la miséricorde, et si nous donnons de l'amour, cela nous reviendra. Bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Et cette femme a dit qu'elle regardait. Et c'était comme une révélation pour elle. Elle a pensé, « J'ai besoin de faire ça par la foi. Mon mari se comporte comme un idiot en ce moment, mais je vais l'aimer. Je l'aimerai avec l'amour de Christ et je ferai passer ses besoins en premier. » Elle a commencé à l'aimer. Elle lui a manifesté le pardon, la miséricorde et a commencé à faire des choses pour lui, à lui préparer son repas préféré. Elle lui disait des paroles gentilles. Et elle a dit que c'était comme de la magie. Littéralement, « Pasteur, c'est presque comme de la magie. Vous ne croiriez pas le changement qui s'est produit chez mon mari. » Elle a dit, « Il a même proposé de m'accompagner à l'église. » Et donc, les choses ont commencé à changer. Parce qu'au lieu de se concentrer sur ce qu'elle n'obtenait pas, elle a commencé à se concentrer sur ce qu'elle pouvait donner. Et donc, dans notre acrostiche jusqu'ici, nous avons vu S pour l'anglais, same, faith, c'est-à-dire même foi, puis P pour prière. Il est bien de se marier avec une personne qui a une même foi que nous, qui aime Jésus. Nous devons prier sincèrement pour le choix du ou de la partenaire. Ensuite, O pour l'anglais others, c'est-à-dire les autres. Il est bien de trouver une personne qui pense aux autres, pas une personne qui est égoïste et paresseuse, mais une personne qui travaille et s'applique à aider les autres. Ce sont de bons partenaires de mariage à ce niveau. Tout ce que j'ai à vous dire est que vous devez regarder la suite de cette histoire dans le prochain épisode pour découvrir ce que les autres lettres de notre acrostiche spouse veut dire. Mais je veux vous dire ceci. Vous êtes peut-être dans un mariage très difficile en ce moment. Vous passez des moments vraiment éprouvants. Je suis de tout cœur avec vous. Je pense que parfois, nous ne pouvons pas imaginer à quel point les gens souffrent. Vous devez savoir que Dieu vous voit, qu'il vous entend, qu'il vous écoute et qu'il vous aime et qu'il vous donnera des étapes à suivre. Si vous êtes célibataire et que vous voulez vous marier, écoutez, Dieu vous guidera. Quelle que soit votre situation dans la vie, je vous le dis, mettez votre confiance dans le Seigneur et vous ne serez pas déçus. Mon ami, j'espère que vous avez saisi quelque chose du message d'aujourd'hui. Sachez que ce n'est pas tout, mais pour l'instant, sachez que Dieu vous aime. Vous me regardez peut-être en pensant, « Pasteur, vous avez parlé de mariage. » Et en vérité, j'ai été marié plusieurs fois.
C'est possible que vous soyez la raison pour laquelle ces mariages aboutissent au divorce. Mais vous savez quoi? Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il y a une histoire dans la Bible où Jésus se rend au puits de Sichar. Et ses disciples sont allés acheter de la nourriture. Et il y a une femme là. Il est midi, elle est venue puiser de l'eau. Les hommes ne se rendaient pas au puits seuls. C'était dangereux, mais elle s'y trouvait en plein milieu de la journée. Pourquoi? Nous le découvrons au fur et à mesure que l'histoire évolue. Jésus lui demande à boire et elle dit « Tu es un juif? Pourquoi parles-tu, moi, une samaritaine ?» Et Jésus lui dit pendant la conversation « Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et alors, Jésus se révèle à elle. « Et mon ami, il veut se révéler à vous. Il vous aime. »